Les infos choisies.
Chaque vendredi de 12h30 à 13h.
Sur Radio Galère à Marseille
et Ayoli Radio à Avignon.
Des infos
qui nous touchent,
qui nous concernent,
qui nous ressemblent,
qui nous parlent,
qui nous donnent de la force,
qui nous font réagir.
C'est parti pour 30 minutes d'infos choisies. Bonjour.
Salut à toutes, salut à tous.
Bonjour, bonjour.
Donc nous sommes le vendredi 17 mai 2024, il est 12h passées de 31 minutes et c'est l'heure des infos choisies.
Eh bien, aujourd'hui, il est question de quoi ?
Eh bien, on va parler de la Kanaky.
De l'impunité policière ?
Ouais, des matons.
Une petite rubrique SF, non ?
Voilà, la SF, et puis bien sûr un agenda. On est écouté sur Ayoli FM en Avignon aussi,
oui,
actuellement.
Et rediffusé le lundi matin à l'heure des embouteillages à 7h30 sur 88.4.
C'est parti.
Alors, le week-end dernier, Aurélie Garand, sœur d'Angelo Garand, assassinée le 30 mars 2017 par des gendarmes du GIGN de 5 balles dans le torse, à Sœur, à côté de Blois, chez ses parents, est venue présenter son livre « Depuis qu'ils nous ont fait ça » aux éditions du Bout de la Ville. Elle revient sur ce qu'elle et sa famille ont traversé, et de la rencontrer, ça a été aussi l'occasion de parler de son collectif, enfin du collectif qu'elle a créé avec sa famille et ses proches, qui s'appelle le collectif « Vérité et justice pour Angelo ». Son collectif se mobilise et se solidarise contre les violences et les crimes policiers. Elle est aussi venue nous parler des deux non-lieux judiciaires auxquels ils ont dû faire face et du refus de la Cour de cassation de reprendre le dossier après que la famille l'ait saisi. Il ne reste donc maintenant que la saisie de la Cour européenne des droits de l'homme pour espérer avoir une reconnaissance institutionnelle du meurtre d'Angelo par des agents de l'État et aussi une reconnaissance de ce que eux et elles ont subi. Chose que la famille a faite, et cela même si ça ne vient que mettre un pansement sur leur plaie encore ouverte. Aurélie nous dit qu'elle n'est pas prête à lâcher l'affaire, que ce combat est nécessaire au regard de tous les crimes policiers en grosse augmentation depuis l'article 435-1 en février, qui a été mis en place en février 2017. Soit un mois avant l'assassinat d'Angelo. C'est ce même article qui est mis en cause dans l'assassinat de Nell l'année dernière. Cet article porte sur l'extension du droit à la légitime défense des Schmitt. Avant 2017, les critères de la légitime défense devaient être encadrés par prouver l'immédiateté, la nécessité et la proportionnalité de la riposte. Depuis 2017, donc depuis le fameux article 435-1, il prévoit, cet article, que les policiers peuvent désormais faire usage de leurs armes, que lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes, des véhicules, des embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt, dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Autrement dit, il est désormais possible pour les condés de tirer sur quelqu'un sur la seule présomption que les personnes pourraient avoir l'intention de s'enfuir ou de commettre une infraction. Ce qui ne parle ni de ce que le flic projette sur la personne qu'il a en face, ni des conditions objectives dans lesquelles ils sont, eux. Admettons que nous soyons face à un flic qui braque un flingue sur nous et qu'on ressemblerait vaguement à son ex qui est parti avec un de ses collègues. Nous comprenons, nous, à cet instant, qu'il n'est pas dans son état normal, parce qu'il nous appelle Marie. Nous essayons de le rassurer, en lui disant que nous ne sommes pas cette personne, et quand bien même il n'a pas le droit de pointer son arme sur son ex. Il ne comprend toujours pas. Donc, alors qu'on lui dit que nous allons lui montrer notre carte d'identité pour lui prouver que nous ne sommes pas Marie et qu'il faut qu'il se calme, donc dans un geste un peu lent, on met la main dans notre sac, pas brusquement pour éviter justement qu'il s'énerve, donc on met la main dans notre sac, dans notre poche pour sortir nos papiers, et là il tire. et il a le droit. Parce que le L435-1 le lui permet, mais en plus il le protège. Mais ni vous, ni moi, et encore moins son ex, ne sommes protégés à cet instant. La réalité, trêve de plaisanterie, hein, c'était pas pour rigoler, c'était juste pour prouver que ça peut arriver même dans des instants comme ça. Donc la réalité, c'est qu'en 2022, 13 personnes sont mortes dans des conditions similaires, c'est les seuls chiffres qu'on a. Et que, aussi, là, c'est sorti dans le cas de la mort de Naël. C'est cet article qui est systématiquement invoqué et que les non-lieux pleuvent dans des procès de crimes policiers. Donc, la justice les protège, mais ne nous protège pas. Et surtout, ne protège pas, en fait, cette manière de... Enfin, bref, c'est la merde, quoi.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi
30. Les infos choisies, vendredi,
les
midi
30. Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Pendant la libération d'un prisonnier lors de son transfert en Normandie ce mardi 14 mai, deux matons ont été tués et d'autres ont été blessés. Le prisonnier est pour l'instant libre, mais les syndicats de matons et matonnes très corporatistes et passablement extrême-droitistes se sont rapidement organisés pour mettre la pression sur le gouvernement pour avoir encore et toujours plus de moyens, durcir la détention et par la même occasion mettre la misère à tous les prisonnières et prisonniers de France en mode punition. Donc des piquets de grève ont lieu devant énormément de prisons en France depuis mercredi matin et les Bouches-du-Rhône ne font pas exception. Mercredi et hier jeudi matin, environ une centaine de matones bloquaient les Baumettes dès tôt le matin. Pas un seul parloir accordé depuis mercredi matin et mercredi, les proches qui venaient pour les parloirs n'étaient même pas au courant de l'annulation des parloirs, donc déplacement pour rien de parfois plusieurs centaines de kilomètres. Selon des témoignages de prisonniers à l'intérieur, mercredi, il n'y a eu aucune promenade et les gamelles n'ont pas été distribuées. À la maison centrale d'Arles, pas de promenade ni de douche depuis mercredi matin. La bouffe distribuée, c'est de la bouffe froide de garde à vue et les crédits pour les cabines téléphoniques sont bloqués. La plupart des travailleuses à l'intérieur de la prison sont bloquées par les matons à l'entrée, à l'exception de quelques infirmiers, donc tout le fonctionnement de la prison est en vrac. Les parloirs sont annulés aujourd'hui, vendredi 17. À la maison d'arrêt d'Aix, Luynes, la tôle est bloquée depuis mercredi matin. Plus rien ne fonctionne et ce sont des policiers à l'intérieur qui ont pris le relais des matons. Mais du coup, aucun parloir, aucune promenade, rien, pas de cantine. Les repas arrivent en retard de plusieurs heures. Il y a un rassemblement qui est prévu depuis quelques temps déjà, qui aura lieu devant les Baumettes dimanche 26 mai. Dans une dizaine de jours, donc, pour apporter de la force et du soutien aux personnes enfermées et contre les violences carcérales. Ces dernières semaines, 3 détenus sont morts dans les prisons des Baumettes, de Nîmes et d'Aix-Luynes. Que la mort soit due au coup des matons ou à un suicide, c'est toujours la prison qui est responsable. Quand 2 matons se font tuer, les médias et politiques s'émeuvent et 70 000 prisonniers trinquent pendant des jours ou des semaines. Quand des prisonniers et prisonnières meurent, c'est dans l'indifférence, le silence et l'oubli. Liberté pour toutes et tous, force à toutes les personnes privées de liberté, notre détermination ne faiblira pas. Rendez-vous le dimanche 26 mai à 15h devant les Baumettes.
Ai, nesse cenário.
Ça, c'est vraiment de la balle, c'est Catharsis avec Finale. Ça a déjà quelques mois, mais c'est vraiment génial. Vous êtes toujours sur Radio Galère, c'est Les Infos Choisies. Et là, depuis lundi, en Kanaky, aussi appelée Nouvelle-Calédonie, la situation est méga tendue et c'est un euphémisme. Puisqu'il y a déjà eu au moins 5 morts dans les affrontements entre la police et les indépendantistes kanak. L'armée a été déployée et un couvre-feu décrété dès mardi. Les écoles et l'aéroport de Lille sont fermés, des maisons ont été incendiées, des commerces pillés. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Ça fait que quelques jours là, que je me suis intéressé, donc ça ne me permet évidemment pas de piger toutes les suites. Enfin, les subtilités de la situation en Kanaky. Du coup, je vais essayer de rester plutôt factuel. Et voilà. Alors, pour faire méga court, la Nouvelle-Calédonie, c'est un archipel situé à l'est de l'Australie et la France l'a colonisé à partir de 1853. Le peuple autochtone, c'est les Kanaks. Donc, c'est pour ça que les indépendantistes appellent leur île la Kanaky. Mais voilà, Nouvelle-Calédonie, Kanaky, on parle du même endroit. Ça a été une colonie de peuplement, il y a eu l'exploitation des ressources et des populations, il y a eu un bagne qui a été installé, Louise Michel d'ailleurs, elle y a fait un petit séjour, comme pas mal de communards qui eux sont jamais rentrés pour la plupart. Et les descendants des Français de cette époque, enfin, ils sont appelés les Caldoches. Il y a aussi ceux qui sont appelés les métros, bah, ça c'est les Français qui sont installés depuis pas très longtemps, les métropolitains. Et il y a aussi des communautés vietnamiennes, javanaises, tahitiennes, etc. Historiquement, il y a une domination des Caldoches sur les Kanaks. Sûrement que ça se vérifie encore aujourd'hui. Mais en tout cas, pour vraiment schématiser, il y a les indépendantistes qui sont côté Kanak et les loyalistes, donc qui veulent que la Nouvelle-Calédonie Kanaky reste dans le giron de la France, qui sont côté Caldoches. L'origine de l'embrasement d'aujourd'hui, c'est un projet de modification de la Constitution qui élargit les catégories de population qui peuvent voter aux élections provinciales. Alors, les élections provinciales, elles sont méga importantes en Kanaky parce que c'est les conseils des trois provinces qui élisent le Congrès et le Congrès, après, qui vote pour constituer le gouvernement de Kanaky. Donc le gouvernement qui a pas mal de prérogatives, même si à côté, il y a la France qui exerce les fonctions régaliennes, donc tout ce qui est sécurité, diplomatie, monnaie, justice, etc. On va écouter une explication de l'enjeu du dégel du corps électoral. C'est tiré d'une vidéo dispo sur la chaîne YouTube NPA, l'anticapitaliste.
Vous en avez peut-être entendu parler, mais depuis quelques mois, le peuple kanak est en lutte face au processus de recolonisation de son archipel par l'État français. Les accords de Matignon, à la fin des années 80, puis les accords de Nouméa 10 ans plus tard, avaient entamé un processus de décolonisation. L'État français avait accepté un gel du corps électoral en Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Le peuple kanak étant minoritaire sur sa propre terre, le gel du corps électoral empêchait ainsi les métropolitains arrivés en Kanaky après 1998 de voter afin de ne pas noyer les voix du peuple kanak dans la gestion de son territoire. Les accords de Nouméa prévoyaient également 3 référendums posant la question de l'indépendance. Le 3e et dernier référendum s'est tenu en 2020, en pleine période de confinement, ce qui avait rendu impossible pour les Kanaks de faire campagne et qui avait donc demandé le report de ce référendum. L'État français a refusé et les Kanaks ont refusé d'y participer. Ils en contestent donc aujourd'hui la légitimité. L'État français tente un passage en force, estimant que la Nouvelle-Calédonie avait rejeté l'indépendance. En effet, une nouvelle loi prévoit le dégel du corps électoral, ce qui aura pour effet de noyer les voix du peuple autochtone kanak, et cela au mépris total de son droit à l'autodétermination, consacré notamment par le droit international et la résolution de l'ONU 4141A, affirmant le droit inaliénable du peuple de la Nouvelle-Calédonie à l'autodétermination et à l'indépendance. Comble de l'ignominie, l'État français a reporté les élections provinciales qui devaient se tenir ce printemps pour laisser le temps au corps électoral d'accueillir ses nouvelles voix et ainsi renverser la majorité kanak du gouvernement local.
Voilà, alors aujourd'hui, ce qui est flagrant, c'est la gestion coloniale par la France. Parce que, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les accords de Nouméa de 98, donc qui visaient un processus de décolonisation, c'était vraiment le terme qui était utilisé. Aujourd'hui, en prenant le prétexte des référendums sur l'indépendance qui ont débouché sur un non, mais qui sont considérés comme illégitimes par les indépendantistes, les autorités françaises, en prenant ce prétexte-là, elles font marche arrière, elles remettent en cause l'idée de décolonisation et passent en force pour asseoir leur emprise. Et c'est quoi les intérêts de la France là-bas ? Bah, évidemment, c'est économique, puisque la Nouvelle-Calédonie Kanaky possède des ressources énormes en nickel, ça parle de un quart des ressources mondiales en nickel en Nouvelle-Calédonie. Et une des puissances qui lorgne sur le nickel et qui a tendance à implanter des entreprises un peu partout et à faire bien baliser les pays occidentaux, c'est la Chine. Et donc, le fait pour la France de renforcer son autorité en Nouvelle-Calédonie, c'est aussi une manière de contrecarrer l'expansion économique chinoise, puisque les indépendantistes kanaks ont un peu le discours de bah « nous, on n'a rien contre la Chine, c'est pas eux qui nous colonisent depuis le 19e siècle ». Et ce discours, il est aussi tenu par les tendances indépendantistes de plusieurs colonies françaises, notamment Tahiti, etc. La gestion coloniale, elle se traduit aussi par les inégalités qui existent en Kanaky entre Caldoche et Métro d'un côté et Kanak de l'autre. Et même si les accords de 88 et 98 avaient pour but, et dans une certaine mesure pour effet aussi, mais de réduire les disparités entre ethnies, on constate par exemple qu'en 2009, un jeune non-Kanak a 7 fois plus de chances d'obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur qu'un jeune Kanak. En 2019, le niveau de vie médian était du simple au double entre Kanak et non-Kanak. Et en 2020, l'indice d'éducation est 2,7 fois plus élevé pour la population européenne que pour les Kanaks. Donc voilà, ça c'est un peu... C'est juste des chiffres, mais au final que je trouve assez parlant. Et puis, la gestion coloniale, bah, c'est aussi le degré de répression qui s'inscrit dans la continuité de l'histoire de la violence coloniale en Kanaky. Un peu comme ce qui s'est passé il y a quelques mois à Mayotte avec l'opération Wambushu. Et même si, voilà, si on veut extrapoler, on peut voir ça aussi dans la même logique que pour la gestion des révoltes des quartiers populaires en France. Et puis, plus largement, bah, je trouve que l'action du gouvernement, elle est assez symptomatique d'une politique un peu, complètement même forcenée, autoritaire, qui manœuvre contre le peuple de manière frontale. Bon voilà, c'était juste un survol, et c'est évidemment pas l'analyse la plus fine que vous pourrez trouver, mais j'espère que ça peut donner 2-3 clés de compréhension de la situation, et peut-être qu'on en reparlera bientôt. En attendant, on va écouter Surface Tangible, qui ont joué hier à la Sale Gueule, c'était trop bien, et on se retrouve juste après. We'll be right back.
savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord...
Les infos choisies, vendredi, 12h30.
Alors, SF ou réalité, je ne sais plus vraiment, à vous de peut-être choisir. La question est la suivante, dans l'espace, qu'est-ce qui se trame ? Eh bien, bien évidemment, la conquête et l'occupation, également comme ce qu'on vient d'entendre, la Terre ne suffit plus, il faut aller conquérir l'espace. Donc l'augmentation de la population orbitale suit une courbe exponentielle depuis quelques années. À la mi-mai 2024, 17 000 satellites circulent et 9 000 d'entre eux sont encore actifs. On prévoit 100 000 satellites en orbite pour la fin de cette décennie. Mais et bien évidemment, cette conquête spatiale pose quelques questions. À quoi vont donc servir ces milliers et milliers de satellites ? La plupart des projets concernent les communications. Utiliser un satellite pour communiquer, c'est pas neuf, mais c'est un outil qui était peu utilisé parce que ces satellites donc sont en les satellites avant étaient en orbite géostationnaire. Il y a un côté pratique pour le pointage car le satellite se trouve toujours au même endroit du ciel, vu depuis un endroit sur Terre, mais la distance, 36 000 km d'altitude, introduit un délai de réponse, un quart de seconde environ aller-retour, qui n'est pas agréable pour la communication. Donc les nouveaux satellites se trouvent beaucoup plus près de la Terre, à quelques centaines de kilomètres. L'avantage, le délai dû au trajet est quasiment indétectable. Mais le problème est de taille, comme un satellite en orbite basse fait un tour autour de la Terre en 1h30, il ne passe que quelques minutes au-dessus d'un endroit donné. Donc la solution, il faut plein de satellites pour assurer la communication en permanence. Et quand on dit plusieurs, ce n'est pas deux ou trois, il s'agit de méga constellations de centaines, voire de milliers de satellites, d'où la frénésie de lancement actuelle. En plus, il existe plusieurs projets concurrents, puisque c'est des privés qui ont lancé le truc. Donc les plus connus, mais pas les seuls, il y a Starlink, SpaceX et Elon Musk, 12 000 satellites autorisés, 42 000 proposés, Kuiper d'Amazon, plus de 3200, et OneWeb de Telsat, environ 600. Et qui peut se payer l'utilisation de telles infrastructures ? La première, la plus grosse, qui dans la science-fiction, il y a quoi ? Il y a des gros guns, l'armée, les militaires en opération. Ils veulent évidemment pouvoir communiquer sans problème, n'importe où, n'importe quand, quelles que soient les conditions et à n'importe quel prix. Ce n'est pas pour rien que le projet européen IRIS 2 comporte un volet clairement destiné aux armées du continent. Par contre, s'il s'agit de satellites privés, ça pose quelques questions sur les enjeux d'alliance pour plus tard dans les guerres, Game of Thrones, compagnie, bref. Les grandes pontes de ces méga constellations ne s'y sont pas trompées et vantent évidemment l'accès partout et pour tous et toutes. On peut identifier trois groupes potentiellement intéressés. Tout d'abord, les communautés isolées, loin des grosses villes. Mais ces communautés isolées n'ont pas toujours les moyens de se payer cet internet satellitaire, donc ça compte pas vraiment finalement. Plus richement dotées, les compagnies maritimes sont une cible de choix. Leurs bateaux sillonnent les mers et l'on peut oublier la connexion par fibre ou au réseau GSM. Évidemment, le satellite constitue ici une solution évidente parce que oui, dans les films de SF, y a toujours des bateaux et des yachts. Donc, une méga constellation, ce n'est pas forcément utile, mais au moins, est-ce rentable ? Starlink, là, de Elon Musk, ça ne l'est pas. Depuis 8 ans qu'ils ont lancé le projet, la question de la rentabilité n'est pas encore résolue, mais a priori, la conquête n'a pas de prix. Et les conséquences. Donc, y a quelques conséquences. Donc, peupler ainsi l'orbite basse produit la pollution du ciel nocturne et les collisions. C'est mathématique. Plus il y a de monde, plus on risque de se cogner. C'est un peu comme rouler sur l'autoroute à la vitesse maximale et devoir éviter toutes les 10 minutes un autre véhicule venant de n'importe quelle direction, lui aussi roulant à pleine vitesse. Au premier semestre 2023, les Starlink ont ainsi dû effectuer 25 000 manœuvres d'évitement. Ça fait tourner, ça donne le vertige. Et ce chiffre double tous les 6 mois. Au final, les satellites passeront leur temps à s'éviter les uns les autres et rien n'étant parfait, la collision avec effet avalanche aura bien lieu à un moment donné, rendant la zone inutilisable. Bah là, je repose donc la question de la SF. J'ai l'impression d'être dans un vraiment mauvais scénario. Et l'impact écologique, bah, la production de satellites, comme pour tout objet de haute technologie, on a besoin de nombreux composés électroniques et l'on sait que cela donne beaucoup d'éléments rares, qui sont notamment en Kanaky, souvent extraits dans des conditions difficiles et mis en œuvre dans des pays à la législation environnementale peu contraignante. Le lancement du site, du satellite en lui-même, donc les carburants utilisés pour alimenter les fusées de propulsion. Et l'autre gros problème des fusées est l'endroit où la pollution se produit en moyenne et haute atmosphère, contrairement à toutes les autres activités humaines limitées à la basse atmosphère. Dans la haute atmosphère, en fait, ça s'accumule et c'est difficile de quitter la zone pour la pollution. Bref, donc, on s'attend à un réchauffement de la stratosphère dont l'amplitude dépendra évidemment de l'ampleur de l'activité spatiale future.
Il y a des embouteillages dans le ciel.
Voilà.
Alors, il est presque 13h, donc on va vous faire un petit agenda vite fait en vous donnant les grands titres. Et surtout, on vous invite à regarder sur Internet ou sur les réseaux ce qui va se passer ces prochains jours.
Alors, y a tout le festival Big Tata, le réseau des centres d'archives et bibliothèques LGBTQIA+, ETPBG, qui vous invite à ses deuxièmes rencontres annuelles du 17 au 20 mai 2024. Donc ce soir, 21 rue du Chevalier Rose à 19h30, il y a un mot d'introduction de mémoire des sexualités. Oui, je fais
vite. Pardon, c'est un grand titre.
Oui, c'est ça. Samedi 18 mai, atelier d'écriture de 10h à 13h au futur local des mémoires des sexualités au 94 boulevard de la Libération. Samedi, soirée de soutien à la DAR au 124 rue d'Aubagne avec plein de choses chouettes. Dimanche 19 mai, atelier Qu'est-ce qui le se nous fait de 15h à 17h au futur local des mémoires des sexualités. Dimanche également, une projection suivie d'une discussion à 18h au Vidéodrome. Et lundi 20 mai, ça sera la permanence des héroïnes à 18h.
Et ce soir, toujours ce soir, il y a une lecture, une présentation du livre « Couronné d'oiseaux » d'Estelle Copalini à la librairie Transy à 19h. Demain, à Solidaire, il y a une conférence gesticulée de Michel Benizri à 19h, donc demain 19h, conférence gesticulée de Michel Benizri, moi, français, juif, arabe, comment j'ai dit, démissionné du sionisme. Et dimanche après-midi.
Trois manifs.
Oula, va falloir choisir.
La première à 13h au Réformé, en haut de la Canebière, manifestation pour la libération d'Abdullah Öcalan et les politiques au Kurdistan, appelées par la jeunesse kurde de France.
À 14h, Porte d'Aix, face à l'État colonial français, rassemblement en solidarité du peuple kanak en lutte, la chronique qu'on nous a faite.
Et à 15h, Porte d'Aix, cessez-le-feu et levée du blocus immédiat en Palestine.
Le gang des gazières vous convie à une soirée spéciale sur la lutte des Andis vendredi 24 mai au Vidéodrome 2 et vous pouvez regarder le programme sur le site du Vidéodrome.
Il y a la manif riposte contre les attaques transphobes samedi 25 mai à 16h au Vieux-Port et bien sûr les Baumettes le 26 mai.
Merci la technique.
Et avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.
Oui, grosse bise à tous les absents.
Et, d'ici là, portez-vous bien. Vous pouvez nous réécouter sur le site de Radio Galère.
Et dans quelques minutes, c'est l'agenda alternatif.
Bisous, bisous.
Ciao, ciao. Ciao.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org. Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.